Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous te remercions pour ta parole.
Et
nous te remercions parce que Seigneur, tu nous as donné les clés, Seigneur, pour comprendre ce livre de l'Apocalypse. Et je te remercie parce que Seigneur, c'est un livre précieux à tes yeux, c'est la révélation que tu nous as donnée, Seigneur.
Et
que tu veux que ton peuple comprenne. Merci d'illuminer les yeux des cœurs encore ce soir. Merci parce que nous avons besoin de comprendre, Seigneur, un certain nombre de choses à propos de la fin des temps, Seigneur, afin de mieux vivre et afin aussi de prévenir, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas de te recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous en sommes sur cette très, 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 très longue série sur l'Apocalypse. Je vous rappelle que c'est un livre qui veut dire révélation. Et c'est vraiment le livre qui clôture la parole de Dieu.
Et
c'est très souvent mal abordé par les chrétiens parce que les païens se sont emparés de toutes sortes de trucs sur l'Apocalypse. Et alors, ils racontent beaucoup de choses sur l'Antichrist, le 666, etc., les catastrophes,
blablabla.
Mais je vous rappelle que ce n'est pas l'objectif principal du livre. L'objectif principal du livre de l'Apocalypse, c'est de nous montrer comment Dieu va restaurer son royaume dont nous faisons partie, dans lequel nous sommes entrés par la nouvelle naissance, et comment il va aussi instaurer son royaume sur la terre, c'est-à-dire installer son royaume quand il aura tout recréé sur la surface de la terre. Et l'Apocalypse, c'est l'histoire de la victoire totale, complète, absolue du royaume de Dieu et donc de Dieu. Donc c'est l'histoire du royaume qui a été perdu parce que Dieu avait voulu instaurer son royaume au travers d'Adam et Ève sur la terre. La terre est la propriété de Dieu. Dieu avait mis un gestionnaire. L'homme. Et l'homme a transmis un droit légal de gestion au pire ennemi de Dieu. Donc vous avez bien compris ça, je pense. Et ce n'est pas du tout un livre pour faire peur, bien au contraire, mais c'est un livre qui va nous montrer un certain nombre de choses et qui nous montre aussi de beaucoup de réalités dans le monde invisible. Donc nous avions étudié le chapitre 1 déjà, Jean qui se présente, comment il a reçu sa vision, sa révélation. Nous avons vu comment Jésus aussi se révèle à lui, il a une vision de Jésus glorifié. Jean est saisi par la puissance de Dieu. Et puis nous avions étudié aussi les chapitres 2 et chapitre 3, les sept messages aux sept églises, et nous avons eu toutes les caractéristiques où Jésus reproche, où Jésus encourage, où Jésus reprend. Et Et nous avons découvert beaucoup de choses à propos de, des messages sur les églises de l'époque. Alors ensuite, nous avions étudié ce chapitre 4 qui est vraiment absolument extraordinaire. Sur la gloire du troisième ciel. Et nous avons vu ce qu'il y a au troisième ciel. Et cette scène céleste est vraiment un complément de toutes les scènes célestes dont nous avons la révélation dans l'Ancien Testament. Nous avons comparé les visions de l'Ancien Testament et cette vision ici. Et nous avions remarqué plusieurs choses. Dans l'Ancien Testament, on voit que plusieurs prophètes vont recevoir la vision d'un trône. Entre autres Ézéchiel. On avait aussi qu'il y avait Ésaïe qui avait reçu une vision. On avait vu aussi David dans un psaume. Et quand nous faisons des comparaisons avec toutes ces visions, par rapport à la révélation du Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus, ils décrivent tous un trône, Dieu sur son trône. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas bien la révélation de la Trinité. On l'a dans le Nouveau. Mais aussi ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit en commun aussi dans les visions de l'Ancien et du Nouveau, c'est les chérubins. Donc ça, nous avons bien décrit tout cela. On a beaucoup de détails sur ces êtres angéliques de très très haut rang, de plus haut rang,
qui
garde l'intégrité du trône de Dieu. Et puis, par contre, nous avons découvert dans la vision de Jean des choses que l'on ne voit pas dans les autres visions. Les 24 anciens. Et nous avons essayé de voir un petit peu ce qui étaient ces anciens. Et nous avons certains éléments de réponse dans la parole de Dieu. Nous avons vu que 12 étaient certainement les 12 apôtres. Puisque Jésus en parle dans les évangiles. Et puis, bien sûr, Judas n'était pas dedans. Et on pense que Paul a remplacé Judas.
On
parle des 12 apôtres de l'agneau. Et Jésus leur a promis de régner sur des trônes. Et puis aussi, on s'est posé la question, qui sont les 12 autres? Et nous savons que ce sont des héros de l'Ancien Testament. Donc on a été fouillé dans Hébreux 11.
Et
on a essayé de pêcher un certain nombre de ces héros qui avaient eu le plus d'impact dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est un peu difficile d'avoir une liste précise. Ce que nous ne voyons pas non plus, c'est des foules autour du trône. Dans l'Ancien Testament, dans les visions de l'Ancien Testament. Et c'est normal parce que nous savons qu'il n'y avait personne au troisième ciel avant la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui a ouvert par sa résurrection la possibilité à ceux qui croient en lui d'aller directement au troisième ciel quand il meurt. Évidemment, il n'y avait pas de ville encore. La Jérusalem céleste a été créée apparemment à la résurrection de
Christ.
Donc nous voyons tout cela dans cette révélation. Et on voit aussi, donc, on a beaucoup de détails dans le chapitre 4, nous les avons vus. On retrouve les chérubins, on parle des différentes faces des chérubins qui représentent les quatre évangiles. Puis nous avions conclu par la façon dont les anges adorent. Et les hommes, les rachetés vont adorer. Et je vous ai montré une chose. Il y a une certaine louange et une certaine adoration que les anges amènent. Mais il y a une certaine louange et adoration que nous, les hommes, nous pouvons donner et que nous donnerons au troisième ciel. Parce que je vous rappelle qu'il y a une chose que les anges ne pourront jamais dire. Ils ne pourront jamais louer et adorer Dieu pour leur salut. Nous pouvons le faire. Et nous avons une louange et une adoration. Que les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins ne pourront jamais donner à Dieu. Parce que ça nous est réservé. Amen.
Amen.
Parce que les anges ne pourront jamais dire « Seigneur, merci, parce que tu m'as racheté. » Les anges voient dans le ciel l'agneau de Dieu, nous le verrons dans le chapitre 5. Ils le voient parce qu'il est au ciel. Mais l'agneau de Dieu n'a jamais rien fait personnellement pour eux au niveau du rachat. Par contre, nous, oui. Nous avons des choses que les anges n'ont pas. Rappelez-vous que Dieu nous a créés au-dessus des anges. Mais comme l'homme a été déchu à cause du péché, il a été ramené au niveau de l'animal presque. Avec sa chair, il vivait charnellement. Celui qui n'est pas sauvé, la Bible nous dit, c'est l'homme animal, littéralement. Et Dieu nous a redonné une dignité. Quand nous serons au troisième ciel, le jour où tu vas mourir physiquement, et que ton esprit et ton âme vont sortir de ton corps pour aller dans sa présence, tu pourras adorer Dieu en plénitude et dire des choses à Dieu qu'aucun ange ne pourra jamais le dire. C'est le privilège que nous avons. Et le jour où nous serons ressuscités d'entre les morts, avec notre corps glorifié, nous allons étudier tout cela. Et bien nous retrouverons une position supérieure aux anges. Parce que Dieu a créé l'homme supérieur aux anges. Les anges sont là pour nous servir, frères et sœurs. Ça vous étonne tout ce que je vous dis ce soir? Mais c'est une réalité. Vous savez, il y a des réalités dans la parole de Dieu qu'il faut que nous saisissions. Parce que très souvent, les chrétiens n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils manquent de profondeur dans les réalités du monde invisible. Puis, nous allons donc commencer le chapitre 5 maintenant. Et là, le chapitre 5 va nous emmener dans quelque chose de particulier. Quelque chose de très très particulier. Rappelez-vous qu'à partir du début du chapitre 4, quand nous avons cette scène céleste extraordinaire de tout que nous décrit le chapitre 4, nous ne trouverons plus l'Église. Parce que l'Église est au ciel. L'enlèvement s'est produit. Nous allons l'expliquer d'ailleurs. Parce que je vais être obligé de revenir sur certains événements prophétiques. À partir de la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse, vous ne trouverez plus l'Église. Parce qu'elle n'est plus sur la terre, elle est au ciel. Et il y a des raisons pour cela. Dieu nous donne cette scène céleste, la description de cette scène céleste au chapitre 4. Et au chapitre 5, il va y avoir le déclenchement. Ce qui va déclencher la tribulation. Mais avant de comprendre ce qu'est la tribulation, il va falloir comprendre un certain nombre d'événements prophétiques. Et vous allez comprendre le pourquoi de l'enlèvement. On va lire ensemble un certain nombre de versets. Donc verset 1, puis je vis, puis je vis, puis je vis. Donc il y a, vous, régulièrement, vous voyez, quand il y a des chapitres qui sont introduits, rappelez-vous que les chapitres, ce sont les hommes qui les ont mis. Il faut savoir que tous les textes originaux étaient écrits comme ça d'un seul trait. Mais pour la facilité, on a mis des chapitres et des versets. Ça s'est fait bien, bien des siècles après la mort et la résurrection de Jésus. Il est dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant. Vous vous rappelez, ange puissant. Il y a des anges moins puissants, des anges plus puissants. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, dans le ciel, au troisième ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4, et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5, et l'un des anciens vieillards, je vous rappelle, ce n'est pas une bonne traduction, me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, je vous rappelle que c'est les chérubins, et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, donc les chérubins et les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. » Vous voyez cet aspect de royaume, on en parle, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qu'il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Voilà, donc dans tout ce chapitre, nous avons un certain nombre de choses. Nous avons la révélation de l'agneau. Nous avons un livre dont il est parlé ici avec sept sceaux. Nous allons en parler un peu plus tard. Parce qu'il va y avoir ces fameux sept sceaux dont on va parler, ce sont les jugements de Dieu. Et en fait, à partir du chapitre 5, jusque très loin, jusqu'au chapitre 19, il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous être décrites sur cette année. De ce qu'on appellera la tribulation. Ça va être une période très courte, mais très terrible pour la terre. Mais pour comprendre ce qui va se passer pour ces jugements-là, il va falloir comprendre ce que nous, l'Église, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qu'est-ce qu'ils vont vivre avant qu'il y ait justement cette tribulation qui commence. Parce qu'il y a beaucoup de confusion parmi les chrétiens. Il y a des gens qui font une fixation sur les sept sceaux, les jugements de Dieu. Et ils ont tort. Parce que ça ne concerne pas nous les chrétiens. De façon très étonnante, cette période de sept ans, dont il est décrit de nombreux détails ici, c'est vraiment la révélation la plus précise que nous avons. Va concerner la terre, les habitants de la terre, sans que l'Église ne soit sur la terre. En fait, Dieu va venir pendant sept ans juger les hommes. Parce que l'objectif de Dieu va être à la fin de récupérer. C'est ça qu'il faut bien comprendre ici. La gestion des systèmes de ce monde. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'abord, rappelez-vous toujours d'une chose. Dieu est le propriétaire de la terre. Il est le propriétaire des cieux. Mais la gestion de la terre a été léguée à Satan et aux démons. Là, dans les sept ans qui vont être ici, ça va être une période où Dieu, à la fin, va détruire les systèmes de ce monde pour venir installer son royaume pendant 1000 ans.
kugirango ize gushiraho ubwami bwayo
imyaka igihumbi. Verra l'aspect du millénium.
Tuzobona ibyo bintu by'imyaka igihumbi ngende
bimeze. Donc il aura restauré d'abord son royaume.
Izoba yasubijeho ubwami bwayo.
Pendant 1000 ans Jésus va régner à Jérusalem.
Imyaka igihumbi Yesu azoganza ari Yerusalemu.
Avec nous d'ailleurs à la fin.
Aganzanye natwe mbere.
À la fin de cette période de tribulation.
Mumpera iyo myaka ndwi yihabwa.
Mais c'est pas l'objectif final de Dieu.
Ariki ntumbero y'Imana ntizobishyize.
L'objectif final de Dieu.
Intumbero ya nyuma yayo.
Sera de réaliser son rêve et son plan pour l'homme. Le plan originel. Je vous rappelle, Dieu, quand il a quelque chose dans la tête, ça ne le quitte pas.
Il
a dit, je veux l'homme qui marche avec moi et je veux leur donner un règne.
Mais
je suis le roi des rois. J'ai ma propriété qui est la terre. Et ils vont régner dans un environnement parfait. Et ils seront parfaits. C'est ce qu'Adam et Ève avaient au début. Un environnement parfait. Ils étaient parfaits. Et ils étaient supposés étendre le royaume de Dieu sur la terre. Quand ils ont chuté, ils ont donné la main au diable. Et le diable a récupéré la gestion. Maintenant, pendant les 7 ans de tribulation, Dieu va récupérer la gestion des systèmes de ce monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et pour cela, Dieu va faire un certain nombre de choses. La première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va enlever son église. Et je vais vous montrer pourquoi l'enlèvement. Et qu'est-ce que l'enlèvement d'église? Parce que la Bible en parle, et nous allons découvrir un certain nombre de choses. Parce que là encore, les chrétiens ne doivent pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes sécurisés pour l'éternité. Dieu a mis son esprit en toi pour que tu puisses vivre avec lui pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça que Dieu commence dans nos vies par le pardon des péchés et de mettre sa nature en nous. Quand il a fait ça, il a sécurisé notre éternité. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui ne peut pas descendre en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas aller en enfer. Tout simplement. Donc, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu vas au ciel. Tu vas me dire, oui, mais moi je connais des chrétiens, blablabla.
Alors,
blablabla, ça se traduit par kunu. Ok, donc en fait, si quelqu'un est vraiment né de nouveau, l'Esprit de Dieu ne part pas de lui. Mais il est là pour l'éternité. La Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit habite en nous pour l'éternité. Maintenant, nous verrons qu'il risque de perdre sa récompense. Et d'autre part, je vous rappelle une chose. Certains, vous connaissez des gens qui apparemment étaient chrétiens, mais c'était des adhérents. Un adhérent n'est pas né de nouveau. Un adhérent, c'est quelqu'un qui vient dans une église. Il aime bien les chansons de Dieu. Il aime bien écouter des trucs sur la Bible parce que ça lui plaît. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où c'est à la mode. Mais il n'est pas né de nouveau. Son baptême n'était qu'un bain froid. Ce n'était pas la réalité extérieure de ce qu'il a vécu à l'intérieur. Parce que je vous rappelle que quelqu'un qui est chrétien, il est passé par un miracle. C'est la nouvelle naissance. Et ça, il ne faut pas passer à côté de ce message. On n'est pas là pour faire du recrutement. On n'est pas là pour avoir des adhérents dans nos églises. On est là pour prêcher un évangile sans compromis. Un évangile qui nous met en face de nos réalités. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu il y a quelques jours. Une personne qui m'a raconté son histoire. Et c'était quelqu'un qui a été élevé au séminaire pendant toutes ces années. Il a fait l'école primaire et secondaire là-bas. Et puis au bout d'un moment, il était déçu. Et il me dit, Ben voilà, après j'ai changé de religion, j'ai pris la religion protestante.
Alors
vous me connaissez bien quand j'entends ce terme-là.
Je
dis, je vois tout à fait le problème de cette personne. Parce qu'on n'adopte pas, on ne change pas de religion. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est naître de nouveau. Naître de nouveau.
Et
cette personne avait vécu un... Après, elle a commencé à aller dans une église protestante.
Elle s'est fait baptiser.
Puis elle a eu une déception sentimentale très importante. Et puis bon, elle a vécu des choses qui n'étaient pas bien devant le Seigneur.
Mais
j'entendais, quand j'entendais son témoignage, c'était en gros, j'ai changé d'église. Je fréquentais quelqu'un.
On
vivait n'importe comment. Mais j'entendais pas. Il y a une relation avec Dieu. J'entendais des choses comme, oui, pendant une période, je priais et ça me faisait du bien. Et je lui ai dit, monsieur, votre problème, il est simple. Il
n'y
a qu'une chose qui vous intéresse chez Dieu,
c'est
qu'il vous fasse du bien. Mais je dis, c'est pas parce que vous allez peut-être même faire certaines expériences avec Dieu
que
vous êtes sauvé. Il faut être clair là-dessus. Le salut, c'est pas faire certaines expériences avec Dieu. Le salut, c'est de passer par un pardon des péchés. Être né de nouveau.
Avoir
vécu ce miracle. Et emporter les fruits. Maintenant, peut-être que la marche ne sera pas parfaite parce qu'il y a que Jésus qui a été parfait. Mais une chose est sûre, il y a une transformation. Alors, dans cette partie ici, à partir du chapitre 5, on voit vraiment un complément du chapitre 5 au chapitre 19 des révélations de l'Ancien Testament. Et en fait, on voit très très bien, avec beaucoup de détails, c'est pour ça que là, on va rentrer dans la tribulation. Et d'abord, nous allons mettre des fondations pour bien comprendre ce qu'est la tribulation et à qui elle s'adresse. Et nous naviguerons entre l'Apocalypse, le livre de Daniel, les fameux chapitres de Matthieu 24, qui est si mal compris aussi, et puis bien sûr, dans certains prophètes encore de l'Ancien Testament, entre autres dans
Zacharie.
Et on verra en recoupant toutes ces révélations,
et
bien que nous avons un schéma relativement complet. Les pécheurs n'auront aucune excuse. Il y a tellement de détails dans ces chapitres-là, entre le chapitre 5 et le chapitre 19, il y a tellement de détails que quelqu'un qui a lui-même un tout petit peu une fois la Bible pourra se reconnaître dans des détails prophétiques. Alors, la tribulation va commencer, ça va être le déclenchement à partir du chapitre 5. Jésus va être digne, le seul digne d'ouvrir ce livre. Où il était écrit une révélation cachée, et il va ouvrir, et les sept sceaux, donc les sept jugements de Dieu, et on verra que le septième va être subdivisé par d'autres jugements.
Et
bien, ces jugements vont s'accomplir sur la terre, mais avant ça, juste avant ça, ce qui va déterminer, ce qui va déclencher cette tribulation, ça va être un événement qui va nous concerner, nous l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est très important à comprendre. Dieu va d'abord enlever son peuple. Et après, il va frapper la terre. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, tant que nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, le temps de l'Église, Dieu ne juge pas la terre. C'est pour ça, je vous le dis et je vous le répète, parce que j'entends tellement de bêtises là-dessus, que quand il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit dans ce monde, il ne faut pas dire, ah, c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est complètement faux. Le mauvais gestionnaire, c'est lui qui ouvre la porte aux catastrophes. Par contre, pendant les 7 ans de tribulation, effectivement, il va y avoir une confrontation de puissance spirituelle qui vont amener tout un tas de tribulations sur cette terre, de jugement. Là, c'est Dieu. On verra que c'est les anges qui directement agissent sur les hommes. Mais nous ne sommes pas dans cette période-là. Tout ce que vous entendez sur Israël, je vous le rappelle, n'est pas marqué dans la Bible. Tout ce que vous pouvez voir, même les histoires avec l'Iran, les histoires de bombes atomiques et histoires comme ça, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. Alors, on va regarder un peu l'enlèvement. Et nous allons d'abord comprendre qu'il y a une différence entre le premier retour de Christ et le deuxième retour. Jésus est venu une première fois pour se donner pour nous. Mais il va revenir deux fois. Et entre ces deux retours de Jésus, il y aura une période de 7 ans, la fameuse tribulation. La première fois, il revient pour chercher son église, pour qu'on aille au troisième ciel, pour la protéger de tous les jugements qu'il va envoyer sur la terre. La deuxième fois, il va revenir pour Israël. Parce que là, Israël, et c'est clairement prophétisé dans la Bible, sera au bord de la destruction totale. C'est pour ça que je vous dis une chose. Israël ne sera jamais détruit avant le deuxième retour de Jésus. Il faut être bien clair là-dessus. Parce que ça aussi, c'est pas clair du tout chez beaucoup de personnes. Alors, quand vous étudiez les prophéties, faites bien attention à ce qui est dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a quelque chose qui nous est révélé dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas la doctrine de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était révélé aux prophètes, c'était pour Israël, 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 Israël. Eux, ils étaient aveugles, c'est-à-dire Dieu n'avait pas révélé cette période qui va couper le retranchement du Messie, c'est-à-dire quand Jésus va mourir et ressusciter, jusqu'au moment où il va venir enlever son Église. Regardons dans Éphésiens chapitre 3. Et là, vous allez comprendre quelque chose que vraiment beaucoup de chrétiens ont du mal à voir. Et c'est Paul qui va nous parler à partir du verset 1. On peut entre-temps afficher un peu les périodes, Bob s'il te plaît, donc les périodes qui vont, d'abord les dispensations, et puis on va, le schéma sur les dispensations s'il te plaît, merci. Alors, chapitre 3, Paul va nous dire quelque chose d'important. Alors, il dit au verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce, ou littéralement de la dispensation de la grâce qui m'a été accordée. C'est par révélation, verset 3, que j'ai eu connaissance du mystère. Comme je viens de vous l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ces saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. » Alors ici, il y a plusieurs choses au début de ce passage qui sont importantes. D'abord, il est parlé de la dispensation de la grâce de Dieu, littéralement, au verset 2. Il parle de la dispensation, c'est-à-dire d'un temps particulier. Un temps particulier. Dispensation, c'est un temps voulu par Dieu. Où Dieu fait alliance avec les hommes. Où il choisit un homme ou un peuple. Et à partir de cela, il fait une alliance avec ce peuple. Ou cet homme. Ça, ça s'appelle une dispensation, un temps particulier. Où Dieu va se révéler à un homme ou à un peuple. Et il fait une alliance. Dieu commence toujours les dispensations. Mais très souvent, c'est l'homme qui termine les dispensations par sa désobéissance. Alors, dans la Bible, on peut peut-être mettre les schémas suivants. Je crois qu'on avait des schémas un peu plus précis, Bob. Bon, ici, j'ai fait un schéma qui est un peu petit, je dirais, où il y a beaucoup d'informations dessus. Mais où on parle de sept dispensations. Et la première, ça va être la dispensation de l'innocence. C'est en fait avec Adam et Ève, où ils sont dans le jardin, où Dieu a fait une alliance avec eux. Dieu leur dit, multipliez-vous, envahissez la terre, dominez, blablabla, etc. En fait, amenez mon royaume sur la terre. La manifestation de mon royaume sur la terre. Ensuite, on a la conscience. À partir du moment où effectivement Adam et Ève vont chuter. Dieu est obligé de les amener dans un, je dirais, avec une alliance où ils peuvent s'approcher de lui. Mais vraiment, ils ont tout perdu. Le royaume a été perdu. Le règne de Dieu au travers d'eux a été perdu. Ils sont là comme des misérables. Comme des gens qui ont vu des choses extraordinaires avant d'avoir péché. Et d'un seul coup, tout est voilé. Ils étaient dans un environnement parfait. Ils vivaient des choses extraordinaires. Ils avaient accès à la présence de Dieu. Et Jésus venait les voir régulièrement dans le jardin. Et d'un seul coup, ils ont tout perdu. Ils ne voyaient plus le monde invisible. Ils ne voyaient plus. Et ils se sont retrouvés chassés du jardin d'Éden. Ils sont devenus mortels. Ils sont devenus sujets à la maladie. Ils ont été frappés par la pauvreté. Et ils ont eu plein de problèmes. Problèmes que nous connaissons sur cette terre. Donc c'est eux qui ont fini cette dispensation, qui ont terminé cette dispensation de l'innocence. Ensuite, il y a eu la conscience. Et là, la conscience, ben, c'est l'homme qui vit selon les impulsions de sa chair. Les hommes se reproduisent sur la terre et ils vivent uniquement selon les impulsions de leur chair. N'importe qui peut tuer n'importe qui. C'est vraiment l'anarchie totale. Il n'existe pas de nation à cette époque-là. Il n'y a pas de gouvernement. Tout est là, chacun fait ce qu'il veut sur l'autre. Chacun se défend sur lui-même. Il n'existe aucun système de justice. Il n'existe aucune loi. N'importe qui fait n'importe quoi. Et là, c'est la décadence totale pour la race humaine. C'est pour ça que Dieu va devoir envoyer le déluge d'ailleurs. Ensuite, il y a le gouvernement humain. Les hommes sont une seule nation. Vous vous rappelez l'histoire de Babel. Ils sont tous ensemble. Un seul gouvernement mondial. Qui n'était pas très grand à l'époque. Mais ce gouvernement mondial pouvait faire une chose. À nouveau empêcher la connaissance de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Dieu a confondu les langues des hommes. Et les hommes se sont répandus, ils ont obéi à l'ordre de Dieu. Pour se répandre partout sur la terre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il fallait que les hommes vivent d'une façon différente, sur différentes parties de la terre, qu'ils ne se comprennent pas, et qu'ils créent des gouvernements. Comme ça, si quelqu'un peut peut être persécuté quelque part, il peut aller ailleurs. Dieu n'a jamais voulu un gouvernement mondial. C'est un gouvernement mondial. C'est ce que nous allons retrouver pendant la tribulation. Et Satan fera tout au travers de l'Antichrist, et nous verrons comment, pour créer un gouvernement mondial, ce qu'il va faire. Objectif, éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Oh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. À Babel, c'est ce qu'ils faisaient. À Babel, ils étaient tous ensemble. Ils étaient là et ils étaient contre Dieu. Ils voulaient écarter Dieu de tout. Et le problème, c'est qu'ils pouvaient aussi tuer n'importe qui disait « Moi, je crois en Dieu et je marche avec Dieu. » Donc, c'est pour ça que Dieu a voulu qu'il y ait des nations. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 13 que nous devons pas, si nous faisons le bien, nous ne devons pas craindre des autorités. Que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas que Dieu place les gens, mais Dieu a voulu ces systèmes-là parce que c'est le moindre pire. C'est dur à traduire, le moindre pire. Le moindre mal, dirions-nous. Vous savez, tous les systèmes que les gens bricolent, c'est un moindre pire. Dieu est un théocrate. Dieu est un royaliste. Dieu n'est pas un démocrate. La démocratie est un moindre mal pour les peuples. Mais c'est une catastrophe pour l'évangile. Pourquoi ? Parce que la démocratie enlève Dieu. De partout. Dieu est un théocrate. Est un royaliste. Rappelez-vous. Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un royaume, le royaume de Dieu. Un royaume qui a été perdu par l'homme, mais qui est restauré par Jésus et qui sera instauré à la fin des temps. Si vous comprenez ça, c'est beaucoup plus facile après de comprendre tout le reste du schéma biblique. Donc nous sommes là, nous sommes dans le gouvernement humain, les nations naissent à cette période-là. Ensuite, eh bien, nous avons la promesse. Dieu trouve un homme à qui il va donner la plus grande promesse de l'histoire de l'humanité. Son nom est Abraham. Et il lui donne une promesse terrestre, mais aussi une promesse céleste. L'homme qui a reçu la plus grande des promesses qu'aucun homme n'a jamais reçue dans sa vie. Il s'appelle Abraham. Abraham, toute la Bible témoigne de lui. Vous imaginez, l'histoire d'Abraham a été lue par des centaines de millions de gens. Peut-être par quelques milliards. Ils ont vu sa foi. Mais ils ont lu aussi ses gaffes. Ça doit être dur d'avoir une gaffe qu'on fait et qui est lue par des centaines de millions de personnes. Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Dieu choisit des gens disponibles. Abraham n'était pas parfait. Il avait la foi. Il a marché avec Dieu. Et là, Dieu lui fait une promesse. La promesse qu'au travers de lui naîtra un peuple, que des rois sortiront de lui. Mais plus que ça, il y aura aussi la promesse d'un peuple céleste, et c'est l'Église. Et ça se fera par sa semence. Au travers d'Israël terrestre, le Messie viendra. Rappelez-vous toujours une chose. La Bible nous dit clairement que le salut vient des Juifs. Dieu s'est servi de ce peuple pour que le Messie puisse émerger. Et au travers de cela, que nous les païens, nous puissions entrer dans les promesses de Dieu. Alors après, Dieu va, à partir de la semence d'Abraham, il va y avoir la première partie de la promesse d'Abraham qui va s'exécuter. C'est le peuple d'Israël. Et là, Dieu va lui donner une loi.
Imana ikibaha ibyagezwe.
Et pendant 1500 ans.
Hama imyaka 1500.
Eh bien, il va y avoir la loi de Dieu.
Habaho ibyagezwe by'Imana.
Israël avait pour mission de faire une chose.
Israël afite igikorwa cyo gukora ikintu kimwe.
C'était d'abord donc de garder la connaissance de Dieu.
Ubwa mbere kwari kuzigama ubumenyi bw'Imana.
Et la deuxième partie de sa mission.
Hama igice cya kabiri cyabo.
C'était d'étendre la connaissance de Dieu vers les autres nations.
Kwari gukwiragiza mu mahanga ubumenyi bw'Imana.
Ce qu'ils n'ont jamais réellement fait.
Ibyo navyo ntibigeze babikora by'ukuri.
Ils ont gardé en partie la connaissance de Dieu.
Barazigamye igice cy'ubumenyi bw'Imana.
Mais ils ont tourné en rond, ils ont fait de sacrées gaffes.
Ariko bakora amakosa menshi ntibatera imbere.
Et Dieu au bout d'un moment a dû.
Haragari igihe Imana.
Envoyer son fils.
Irungika umwana wawe.
Je vous ai dit, Dieu démarre les dispensations.
Ndakwibutsa Imana itanguza ibihe amadispensations.
Et la plupart du temps, c'est l'homme qui en met un terme.
Ariko kenshi umwana w'umuntu niwe abirangiza.
Et là nous avons la loi de Moïse, 1500 ans de loi.
Munyuma haza ibyagezwe vya Mose.
Et Jésus viendra pour accomplir la loi. Et là, nous arrivons à une autre dispensation. Qu'est-ce qu'on appelle la dispensation de l'Église? Et la dispensation de l'Église, c'est ce qu'on appelle aussi en théologie la dispensation du mystère. Dans chaque prophétie que vous lisez dans l'Ancien Testament,
Daniel,
les autres prophéties d'Ésaïe, tous ceux qui ont eu des prophéties qu'on appelle eschatologiques, ça veut dire de la fin des temps, ne voyaient pas ce gros rond qu'on a fait ici-là. L'église. Ils ne voyaient rien sur l'Église. Pourquoi ? Parce que Paul nous révèle dans Éphésiens 3 que c'est un mystère. Un mystère, c'est une connaissance cachée, une connaissance divine de Dieu.
Qu'il
cache aux yeux des hommes et même aux yeux de toutes les puissances, invisible. Et au bout d'un moment, il choisit de révéler cela à son initiative. Donc c'est une connaissance cachée. Le temps de l'Église était invisible pour, par exemple, Daniel qui a prophétisé la fin des temps. Dans toutes les prophéties de
Daniel,
ça se focalise sur quoi ? Israël et la fin des temps pour le païen. Mais il ne voit pas cette ouverture, cette brèche que Dieu va ouvrir du salut pour nous. C'est pour ça d'ailleurs quand vous lisez le livre de Daniel, on étudiera cela, il va prophétiser 70 semaines d'années, 490
ans.
Et en fait, dans ce qu'il prophétise, on a l'impression que ça va se dérouler comme ça d'un seul trait. Et en fait, c'est pas ça. Il va y avoir 69 semaines d'années qui vont s'accomplir jusqu'à la croix. Et au moment où Jésus va ressusciter d'entre les morts, à ce moment même, l'horloge prophétique pour Israël va s'arrêter. Toc. Et cette horloge prophétique pour Israël va se remettre en marche lorsque Jésus va enlever son Église. À l'enlèvement de l'Église, c'est là où tous les événements prophétisés dans l'Ancien Testament vont continuer à se mettre en place. Mais pour les prophètes de l'Ancien Testament et toutes les prophéties de l'Ancien Testament, cette période de l'Église, ils ne la voyaient pas. Donc quand vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, pensez toujours, il n'y a pas de révélation sur cette période de l'Église. C'est la dispensation du mystère. C'était un mystère total pour eux. Quelque chose qu'ils ne voyaient pas prophétiquement. Quelque chose que, en fait, dont ils n'avaient aucune révélation. Jésus est mort et ressuscité. Et quelques dizaines d'années plus tard, il a utilisé un de ses serviteurs, Paul, pour révéler à propos de la dispensation du mystère que les promesses maintenant étaient dirigées vers ceux qui donneraient leur vie à Jésus. Donc à l'église de Dieu. C'est beaucoup plus simple quand on comprend comme ça. Parce que sinon il y a un mélange. Les gens prennent toutes les prophéties, ils mettent ça dans une grosse marmite, ils tournent et ils disent voilà, Dieu a dit ça. Ah oui, puis Dieu a dit ça aussi. Et les gens après ne comprennent plus rien. C'est normal. Il faut comprendre le schéma global. C'est pareil, je ne vais pas commencer la tribulation tant que je ne vous aurai pas expliqué l'enlèvement et aussi le tribunal de Christ. On va regarder ce qui va se passer en haut, au ciel, et après, nous reviendrons dans l'Apocalypse pour voir ce qui va se passer en bas pendant 7 ans. Parce que la Bible nous donne des détails absolument phénoménaux. Donc ça, c'est la dispensation de l'Église. La dispensation du mystère qu'aucun prophète de l'Ancien Testament ne voyait. Donc l'horloge prophétique pour Israël s'arrête juste 7 ans avant la fin de ce que Daniel a prophétisé. Donc, l'horloge s'arrête à la résurrection de Christ. Jusqu'à temps que Jésus vienne retirer son église, enlever son église. Et là, l'horloge prophétique pour Israël va se remettre en marche pour les 7 dernières années à accomplir. C'est clair pour tout le monde? C'est pas compliqué. Alors, que va-t-il se passer à l'enlèvement de l'Église? D'abord, regardons un petit peu les deux retours de Christ. Il y a deux retours de Jésus qui sont prophétisés dans
l'Église.
On va trouver ça dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Paul va nous montrer un certain nombre de choses. Et là, vous allez découvrir qu'il y a effectivement deux retours de Christ.
2
Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Alors, on va lire ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Il est dit pour ce qui concerne l'avènement, la venue, donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Regardez bien ici, notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, entre guillemets, inspirations, c'est-à-dire des gens qui viennent, Dieu m'a dit que nous sommes dans tel temps et tel temps. C'est connu, ça, c'est pas ancien, c'est pas nouveau, il y a constamment ça. Soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, on va parler de ça, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, on va voir ce que c'est qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais que ceux qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors ici, au verset 1, regardez bien le verset
1.
On va le remettre. Il est dit pour ce qui concerne l'avènement, le retour. Ici, l'avènement, ça va être le premier retour de Jésus. Le verset 1 concerne le premier retour de Jésus. Et il dit, et notre réunion avec lui. Ça veut dire, il va y avoir un moment où Jésus va revenir et on va être réunis avec lui. Et le fait que Jésus revienne et que nous soyons réunis avec lui, ça va être exactement ce que Paul a enseigné aux Thessaloniciens, nous le verrons tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens
4.
Ça concerne l'enlèvement. Il va venir et nous allons être réunis avec lui. Nous allons voir que ça s'appelle l'enlèvement. Donc, Paul explique, ne vous laissez pas avoir, verset 2, ne vous laissez pas avoir, hein, comme si quelqu'un venait par des inspirations, des sortes de révélations, blablabla, voici, le Seigneur est déjà revenu et vous êtes déjà resté. Vous êtes resté encore, les gars, ah, vous êtes foutus. Vous voyez, toutes sortes de choses où Jésus est déjà revenu, mais il est reparti, il n'a pris personne.
Vous
voyez, il y a plein de trucs comme ça qui ont toujours couru d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. Par exemple, les témoins de Jéhovah racontent qu'avec la Première Guerre mondiale, Jésus est déjà revenu.
Les
témoins de Jéhovah, c'est marqué dans leur doctrine, c'est ce qu'ils enseignent. Ils enseignent ça, les témoins de
Jéhovah.
Parce que, en fait, ils disent, mais oui, parce que Matthieu 24 nous dit qu'il va y avoir des guerres et des bruits de guerre.
Il
y aura donc une guerre mondiale et ça s'est déjà passé. Donc c'était un signe que Jésus est déjà revenu. Et que la résurrection d'entre les morts s'est déjà passée. C'est ce qu'ils enseignent. Alors vous rigolez quand vous entendez ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas. Donc la parole de Dieu va nous montrer une chose. Il y a d'abord Jésus qui revient. Et il y a notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'Église est réunie avec lui. Ensuite, il va dire plusieurs choses. On va lire verset 3. Donc il parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de vengeance du Seigneur.
Verset 2.
Là où Dieu va envoyer ses jugements. Jésus dit, Paul dit, le jour du Seigneur, là où Dieu va envoyer ses jugements, et qui va revenir là pour Israël,
ce
n'est pas encore venu, ça sera précédé d'abord de l'enlèvement. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie, c'est vraiment le fait que en masse, les gens refusent de croire en Dieu et écartent Dieu de partout. Tout est contre Dieu, on enseigne contre Dieu,
contre Dieu.
Et le premier qui ose. Vous voyez, par exemple, le communisme a fait ça. Mais il y a des gens qui ont pu fuir le communisme. Parce que nous sommes encore dans des temps où il y a des gouvernements. Mais le jour où il y aura l'Antichrist, il
n'y
aura plus de possibilité de s'échapper. Parce que ce sera un gouvernement mondial. Avec une seule règle et un seul gouvernement. Donc, que personne ne vous séduise. Donc, l'apostasie doit arriver. Ensuite, il parle de l'homme du péché. Nous verrons que c'est l'Antichrist, le fils de la perdition. Ça va être pendant la tribulation. L'Église sera déjà enlevée. Verset 4, donc, il va aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. On verra ce que l'Antichrist va faire. Et verset 6, on va regarder. Alors maintenant, il dit, maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 6. Donc il parle de quelque chose qu'il retient. qui retient tous ces événements.
En fait.
Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. En d'autres termes, Paul dit, ces événements vont se produire.
Mais
il y a quelque chose qui retient tout
ça.
Qui retient tout
ça?
C'est l'Église. Le fait que l'Église soit sur la terre. Dieu ne peut pas envoyer ses jugements. Nous allons voir qu'il va y avoir des jugements terribles qui vont venir sur la terre. Et que c'est Dieu lui-même qui va envoyer cela. Il va y avoir plein de personnes qui vont mourir sur cette terre et qui seront littéralement tués par Dieu. Oui, parce que nous verrons pourquoi. Dieu, pendant 7 ans, va clairement montrer aux hommes, je vous ai donné 2000 ans de ma grâce ou plus, je ne sais pas si l'enlèvement arrivera dans les prochains temps, je vous ai offert mon amour, vous aviez tout pour vous donner à moi. Pour me servir et me reconnaître. Vous n'avez rien voulu entendre. Maintenant, je vais vous montrer qui je suis. Celui qui était le plus insulté dans l'histoire de l'humanité. Le plus rejeté. C'est Dieu. Il nous a créés. Il a créé l'homme. Il a tout fait pour que l'homme puisse être parfaitement heureux. Il a été accusé et il est toujours accusé tous les jours de faire du mal aux hommes alors qu'il ne fait absolument pas de mal aux hommes. Celui qui a été accusé le plus injustement, le plus insulté, le plus rejeté, c'est le Créateur. Et pourtant, il est coupable de rien. Il est coupable de rien. Donc Dieu, dans cette période-là, à partir du moment où l'Église va être enlevée, il va clairement dire, maintenant vous allez voir qui je suis. J'ai ouvert mes bras d'amour et maintenant vous allez voir le Dieu du jugement. Vous vous êtes moqué de moi. Des gens ont été arrogants en disant, hey, Dieu, si tu existes, viens et foudroie-moi, tue-moi.
Vous
savez qu'il y a des gens qui font comme ça en provoquant. Ça existe des êtres humains qui ont fait ça. Et plus d'un sur cette terre. Alors ils étaient là. Alors vous voyez bien, Dieu n'existe pas. Il n'est pas venu me foudroyer. Il n'est pas venu me tuer. Donc vous voyez bien, il n'existe pas. Il y a eu des millions de provocations. Mais là, après l'enlèvement, Dieu va montrer son côté. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Mais il nous dit aussi que c'est un feu dévorant. Dieu est le juge de la terre, le juste juge de la terre. Donc l'Église retient pour l'instant. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 20. La Bible va nous dire quelque chose. Paul nous dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans la tribulation, Dieu va déclarer la guerre aux hommes. Mais quand vous déclarez la guerre, vous enlevez vos ambassadeurs.
Et
Dieu va nous enlever parce qu'il va venir envoyer ses jugements sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Nous représentons le royaume sur la terre. Mais pour l'instant, c'est le mauvais gestionnaire qui a ça dans ses mains.
Et
quand Dieu va envoyer ses jugements,
il
retire son ambassade. Regardez dans ce monde, vous n'avez aucune ambassade qui reste quand il y a deux pays qui sont en guerre. Sinon, la première chose qu'on fait, on va attraper tous les ambassadeurs, on va attraper tous les gens d'ambassade. Dieu veut protéger son peuple. Et l'objectif numéro un de Dieu pour l'enlèvement, c'est d'enlever son peuple pour le mettre bien au chaud au troisième ciel. Parce que quand sur la terre ça va frapper, nous allons voir que ça va frapper très dur. Nous allons voir plein de jugements. Et croyez-moi, là les hommes, ils seront sous le feu du jugement de Dieu. Nous verrons qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se convertir. Et là, il y aura le gouvernement mondial satanique. Et à chaque personne qui va se convertir, ça sera pour quelqu'un, il va jouer sa vie. Beaucoup seront tués pour leur foi. Là, il y aura des persécutions les pires de toutes. Quand on revient à 2 Thessaloniciens 2, en fait, les Thessaloniciens, c'était une église qui était extrêmement peu mature. Paul avait passé quelques semaines, 3-4 semaines là-bas. Donc il leur avait donné un peu de nourriture spirituelle. L'église était très jeune. Et elle était très facilement troublable. Et troublée aussi. Et en fait, il y avait des gens qui étaient venus en leur disant, vous voyez, les chrétiens sont persécutés. Et effectivement, il faut que vous voyez que dans l'Écriture, à plusieurs reprises dans les Épîtres, il est parlé de temps très difficiles. Par exemple, Paul va dire, il est mieux de ne pas se marier à cause des temps dans lesquels nous sommes. Alors, il y a des super spirituels qui disent, oui, Paul a dit ça, moi aussi j'ai le don du célibat. Ça, c'est les super spirituels. Ceux qui disent j'ai le don du célibat en général, ce sont les gens qui sont prêts à prêcher, ce sont les jeunes en général. Les jeunes.
Les
très très jeunes.
Et
ils ne veulent que prêcher.
Mais
ils ne veulent surtout pas travailler. Et ils ont le don du célibat. On reconnaît certaines de ces personnes. Quand vous entendez un gars qui vous dit ça, vous allez regarder, il ne travaille jamais. Il est tout le temps en train de prier et de prêcher. Et aussi de tendre la main parce qu'il a faim. Mais il s'appelle serviteur de Dieu, alors il n'est pas du tout serviteur de Dieu. C'est triste, mais il y a des gens qui viennent chercher des histoires.
Alors,
en fait, à plusieurs reprises, vous lirez dans l'Écriture qu'il y a eu des temps très difficiles.
Et
particulièrement, il y avait un empereur romain qui était très cruel, qui s'appelait Néron. Et Néron a vraiment beaucoup persécuté l'église de Dieu dans l'Empire romain. Et à plusieurs reprises, il y avait des bruits qui couraient en disant que cet homme, c'était l'Antichrist. Donc comme les gens voyaient l'église, voyaient que vraiment il y avait des moments très très difficiles, des persécutions. À Rome, on a mis à plusieurs reprises beaucoup de chrétiens à mort dans ces périodes-là pour leur foi. On leur faisait beaucoup de mal. Les gens ont commencé à dire, mais oui, la Bible en parle.
Vous
voyez, c'est un peu les mêmes histoires qu'on voit depuis des siècles maintenant.
Ou
à chaque fois qu'il y a des grosses catastrophes, il y a toujours des gens qui se lèvent et même tristement des prédicateurs. Internet est rempli de stupidité sur l'interprétation de la fin des temps.
Internet
on ne lit que des stupidités. Ils vont vous raconter toutes les histoires. La Bible le dit. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible parle vraiment de ce qui va se passer pendant la tribulation, très clairement. Nous verrons que Matthieu 24, exactement pendant la tribulation.
Entre-temps,
il s'est passé et il se passe encore beaucoup de catastrophes
dans
ce monde parce que le diable est le gestionnaire des systèmes de ce monde. L'économie comme ça, les injustices constantes, etc.
etc.
Sauf qu'aujourd'hui, encore plus, nous avons des moyens de communication qui nous permettent, dans la moindre chose qui se passe dans ce monde, quand vous regardez les informations à la télé internationale, c'est les informations des mauvaises nouvelles en général. Et alors, il y a des bons chrétiens qui ne comprennent rien à la fin des temps, qui vont constamment vous interpréter des choses en disant « Oui, l'Apocalypse, chapitre 10, blablabla, dit que... » Mais
ce
n'est pas nouveau. Là, ils étaient troublés, les Thessaloniciens. Parce que l'empereur Néron était un très mauvais empereur, il faisait beaucoup de mal aux chrétiens. Et il y avait des bruits qui couraient, ça y est, c'est l'Antichrist. Et Paul leur dit non. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Comme je vous l'avais écrit précédemment, première lettre aux Thessaloniciens que nous verrons. L'Église sera enlevée. Nous allons avoir des précisions sur l'enlèvement de l'Église.
Et
je vous dis l'objectif numéro un de Dieu, c'est de nous protéger. Parce qu'il va envoyer ses jugements. Et vous ne pouvez pas frapper. Vous savez, c'est comme si vous avez des amis quelque part et que vous déclarez la guerre, vous n'allez pas tirer sur tout ce qui bouge. Parce que sinon, vous allez tuer vos amis. C'est la même chose avec Dieu. Et là, Dieu va être vraiment très dur sur les jugements. Sur la terre. Il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont mourir. Un tiers des hommes à un moment. Il va y avoir beaucoup de choses que Dieu va faire contre les hommes jusqu'à temps de détruire celui qu'ils auront adoré, l'Antichrist, qu'ils auront, je dirais, avec lesquels ils ont fait des pactes spirituels, des alliances spirituelles très fortes contre Dieu jusqu'au bout. Ils auront refusé de se repentir. Et je vous dis, il y aura des gens qui vont quand même se repentir. Mais objectif numéro un, protection du peuple de Dieu. La prochaine fois, nous verrons tous les événements précis qui vont nous montrer la chronologie de l'enlèvement. Comment ça va se passer? Pourquoi ça va se passer? Et après, nous rentrerons dans le tribunal des récompenses, tribunal de
Christ,
puis nous reviendrons après sur les 7 années de tribulation. Et là, nous nous replongerons dans l'Apocalypse en glanant des informations sur des révélations de l'Ancien Testament. Et on verra que le schéma se complète très bien. Et que l'objectif, c'est que Dieu récupère la gestion de sa propriété la terre après qu'il installe le royaume au travers du règne qu'il aura à Jérusalem pendant 1000 ans. Puis après, il refera, il recréera l'environnement et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.